réfère toujours aux impôts de moins de 2 ans. Ça fait que je paye tout. J'ai même eu les impôts locaux alors que je perçois l'AH à payer. Là, il a fallu que je change mon PC parce qu'on est passé à Windows 10 au lieu de 7, je ne sais plus quoi, alors qu'il est tombé et en panne. Et puis, j'ai dû le changer. Mais moi, ça m'a fait des frais, 133 euros, que je ne peux pas me permettre de faire. Et puis, j'ai une assurance complémentaire santé qui me coûte cher. Donc, quand j'ai tout payé, le loyer, eh ben là, comme j'étais repartie sur un découvert de 200 euros, eh ben je suis à 200 euros de découvert et je n'ai plus rien à manger. Je ne bois qu'un bol de café le soir, parce que j'essaye d'être tendre le soir au maximum, et une tartine de pain. Et j'ai fait appel au CCAS, j'ai fait appel à l'assistante sociale. Non, on me dit, vous venez avec vos charges, vos ressources, et puis on vous donnera un bon d'alimentation, mais il faudra aller le chercher, parce qu'il faut aller le chercher à Carignan. Mais Carignan, moi, j'ai pas de voiture, donc il faut que je paye mon auxiliaire de vie, qui va me coûter plus cher que le bon d'alimentation. Parce que j'avais une visite médicale à faire à Charleville cette semaine. J'ai demandé un devis à mon auxiliaire de vie. J'en avais pour 104 euros. Je n'allais pas donner 104 euros pour aller passer une visite médicale. J'ai annulé la visite médicale et j'ai dit non. Là, je perds toutes mes dents parce que ben, à force de ne pas manger, à force de prendre des médicaments, vous avez aussi des problèmes dentaires qui peuvent intervenir. Donc là, j'ai des dents et j'en ai pour 1400 à ma charge. Donc 1400 euros. Donc je ne peux pas. Donc là, pareil, j'ai demandé aussi une aide, mais il faut envoyer un tas de papiers. Bon, enfin bon, je m'y attends pas, je n'attends rien du tout. J'avais demandé une aide pour mes yeux parce que je suis arrivée à 1/10, parce que j'ai quand même des antécédents. Ma mère est devenue aveugle, mon fils est complètement myope et mon frère ne voit que d'un œil. Donc il est fort possible que je devienne comme ma mère, aveugle.
Mais pourquoi votre frère il voit que d'un œil ?
Je sais pas. Ma mère, elle s'en est jamais occupée. Je peux pas vous dire. Ma mère, elle m'a jamais rien dit. Puis comme elle est partie très tôt, ouais. Je peux pas vous dire. Ouais. Et puis de toute façon, il n'était pas question qu'on ait le téléphone. Elle voulait pas qu'on ait le téléphone dans la maison. Le téléphone, c'était dans l'écurie pour les vaches, pour appeler le vétérinaire, mais pas pour appeler le médecin.
Donc, vous avez vécu une sacrée, enfin voilà, vous avez vécu une enfance très difficile, qui semble vous avoir quand même suivi,
ah ben, je suis restée marquée. Ouais. Et puis le problème, c'est que je ne peux plus vivre avec un homme. Je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec un homme. Pour moi, c'est...
Vous m'étonnez. Après
c'est dégoûtant. C'est...
Bah oui.
Oui, mais ils ne comprennent pas, les hommes. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas.
Mais il y a quand même des gens qui veillent un peu sur vous, qui peuvent
non,
vous protéger.
Non, pas du tout. Alors, ce qui me déçoit fortement, c'est que pendant 3 ans, les 3 ans que j'ai passés à Charleville, surtout les 6 derniers mois où j'ai été harcelée, etc., j'ai aidé beaucoup de gens puisque j'étais consultante juridique bénévole parce que je n'avais pas le droit de travailler. Donc, j'étais bénévole. Et ils ont profité de moi parce qu'ils payaient les adhésions. Mais ils ne payaient pas pour faire pérenniser l'association, les cartouches d'encre et tout ça. Donc, je me suis plutôt surendettée.
Oui.
Donc, j'ai fini par, quand je suis arrivée dans le village où je suis actuellement, j'ai dit j'arrête, parce qu'on se fiche de moi. Et depuis que je suis arrivée là et que j'ai dit j'arrête mon association, je la mets en sommeil pendant 3 ans pour ne pas avoir le JO à repayer et tout ça, à refaire les statuts, ah ben, je n'existe plus aux yeux de personne.
Parce que l'association, j'ai pas très bien compris.
Votre association, j'avais créé une association en juin 2015 en tant que consultante juridique, mais bénévole, puisque je n'avais pas le droit de travailler, puisque j'étais en catégorie 2, donc je n'avais pas le droit de travailler, et puis maintenant je perçois l'AH.
D'accord, mais vous êtes consultante juridique, comment ça? Expliquez-moi.
Vous avez le droit de créer votre propre association. J'étais la présidente et la secrétaire. Je devais prendre un trésorier,
oui.
Et puis de bouche à oreille, comme j'avais beaucoup de diplômes de droit et que j'ai travaillé dans le juridique chez des avocats, et puis notamment dans les assurances, et que j'avais repris mes études à l'âge de 40 ans, quand mon fils est parti définitivement chez son père auprès du CNAM, j'ai obtenu 16 diplômes de droit. Donc j'ai mis à profit... Combien ?
16 diplômes de droit ?
Enfin, dans le droit, il n'y a pas que du droit. Il y a de l'administration et gestion du personnel, il y a de la sociologie, il y a un peu de psychologie aussi. Il n'y a pas que du droit. Enfin, principalement, Oui, c'est pratiquement tout sur le droit.
Bon.
Et de là, j'ai mis à profit mes compétences aux personnes, parce que bien souvent, ils se font avoir par les assureurs, même voire, je dirais, des avocats. Et j'ai aidé beaucoup de personnes, notamment une cousine qui a eu son mari, qui a eu un grave accident de travail, et malheureusement, il en est décédé.
Oui.
Elle a eu une grosse somme d'argent. J'ai voulu relancer le TAS et avant d'envoyer la lettre, je l'ai quand même appelée en lui disant « Mais est-ce que tu as reçu des nouvelles du TAS ?» Elle m'a répondu « Ah, est-ce que je vois, les nouvelles vont vite. » J'ai dit « Quelles nouvelles ?» Elle m'a dit « T'es au courant que j'ai eu l'indemnité ?» Ah ben, j'ai dit « Non, parce que j'étais prête à faire partir le courrier. » Et j'ai réfléchi, je me suis dit « Il faut peut-être quand même que je pose la question à savoir si toi, de ton côté, tu as eu des nouvelles. » Et de là, elle s'est sentie quand même un peu gênée. Et elle m'a donné, je ne sais plus, 400 euros, mais elle a touché une somme. Enfin, c'était 15 fois le prix de ma maison, quoi.
Ah bon? Et elle vous a donné que 400 euros?
Mmh. Bon. Et aujourd'hui, elle sait que je suis vraiment dans la panade. Et il y a d'autres personnes, une autre personne qui a eu un accident aussi, qui ne savait pas que les garanties, accidents de la vie privée, les contrats GAV, ils pouvaient intervenir. Et qu'il avait le droit à une indemnité et l'assureur avait fait en sorte pour que l'expertise, que ce soit sous le seuil de la franchise. Moi, j'ai demandé une contre-expertise, puis apparemment, non, c'était au-dessus. Et il avait le droit à une indemnité et l'assureur lui a fait signer une quittance comme quoi il avait reçu les fonds alors qu'il n'avait rien. Donc j'ai déchiré la feuille. J'ai dit non, monsieur, là, ce que vous faites là, c'est du faux. Mmh. Je déchire la feuille. Vous refaites une quittance et vous faites le chèque tout de suite et vous donnez le chèque au client.
Bon.
Alors c'est pareil, c'était une grosse somme aussi, oui. Mais j'ai rien vu.
Mais Bernadette, voilà. Il va quand même falloir donc vous occuper là de la situation, de votre situation.
Et oui, mais il y a aussi le problème de mon frère qui m'embête beaucoup parce que mon frère, on a tout fait. Alors j'ai fait quand ma mère est décédée. Comme moi, j'ai rien eu de mon héritage de ma mère.
Oui.
Mon frère a eu la moitié. Donc j'ai dit à mon frère, je veux que tu t'achètes une maison tout de suite. Où tu travailles, du côté du... C'est dans Vouzinois. Je veux absolument que tu t'achètes une maison et que tu passes le permis. Il a quand même pu passer le permis, mais il peut rouler que dans les villages, pas sur les autoroutes et tout ça. Donc, il s'est acheté une maison. Et puis après, au bout de 7 ans, juste à mon divorce, il a commencé à vouloir me réclamer les salaires différés que ma mère aurait dû lui donner. Donc là, j'ai dit, écoute, si tu me fais ça, moi, je te mets sous curatelle parce que là, je peux pas. J'ai rien eu, moi, de l'héritage.
Oui.
Toi, je te donne ta partie, je te dis d'acheter une maison, je te fais passer le permis et tout. Je crois que je suis loin d'être méchante, tu n'as pas à me réclamer ça, mais
non.
C'était quelqu'un
puis,
qui avait dit ça.
Il a eu le permis après, votre frère ou...
Oui, mais bon, il roule pas... Il va que vraiment dans les villages, hein. Il va pas dans les grosses villes. Hein.
D'accord.
Et donc là, de là, j'ai dit, je vais te mettre sous curatelle. Donc là, je l'ai mis sous curatelle, mais un désastre. Le premier institut qui était la DESA, j'ai demandé les comptes financiers. C'était DESA Choc qui n'existait pas. La tapisserie avec des filets d'or, mais je sais pas, elle n'était pas sur le mur. Ensuite, je l'ai passé sous contrôle de l'UDAF. Il a une curatrice auprès de l'UDAF. Et comme je demandais les comptes financiers à la fin de l'année, mais il fallait, c'est des lois qui ne valent rien, parce qu'il faut demander l'autorisation à la personne handicapée d'avoir le compte financier. Et mon frère, croyant que c'était son compte personnel, mais je lui dis non, c'est juste pour voir si la tutelle, elle te joue pas des tours avec tes comptes. Et pendant 7 ans, de l'âge de 50 à cette année, il a toujours refusé que je monte les comptes financiers. Et cette année, je l'ai revu par hasard, et je lui dis, est-ce que tu veux bien me reparler? Bon, il a fini par dire oui, mais je lui dis, je veux bien, mais à condition que tu me laisses demander des comptes financiers auprès de la curatelle. Mais quand j'ai vu sa maison, parce que je ne l'avais pas vue depuis 7 ans, oh, j'ai dit, mais c'est quoi ce désastre-là? Il pleut dans sa chambre.
Oh, ouais.
Oui, il pleut dans sa chambre. Le toit, c'est tout un cirque pour le refaire, parce que maintenant, il faut qu'il y ait un gain d'énergie de 15% pour avoir des subventions de l'ANA.
Bah là,
il faut
c'est
trouver
mort.
Des entreprises, etc.
Ouais.
Alors là, c'est...
Non, mais c'est même pas la peine. C'est, s'il
ah ben,
bah,
c'est si, je fais quand même le dossier, je le fais avec la curatrice, mais le problème c'est que soit la curatrice elle me répond pas en temps et en heure, le dossier c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui a téléphoné, encore aujourd'hui il devait y avoir une réunion hier pour avec quelqu'un de l'ANA pour les aides, pas de réunion. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de réunion. Là, aujourd'hui, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, mais vraiment par hasard. Je lui dis, écoutez, vous allez arrêter de me... Elle me dit, arrêtez de me harceler. Mais je dis, si je vous harcèle pas, vous faites rien. Je dis, vous étiez en congé quand j'ai fait le dossier de mon frère. C'est moi qui l'a fait tout seul. Il a rien, il n'a pas de photocopie, il n'a pas de photocopie de documents, il n'a même pas de photocopie de ses impôts fonciers, de ses relevés de banque, il n'a rien. Donc, bloqué sur tous les documents. Bon, j'ai arrivé à les avoir, mais par c'est parce que je suis assez forte dans le droit et j'ai fait valoir mes compétences. Mais je me dis, elle m'a même avoué, elle m'a dit, mais de toute façon, on va le mettre au pied du mur pour pas qu'il reste dans sa maison. Mais je lui dis, vous croyez que c'est bien ce que vous faites? C'est tout ce qui reste de sa mère, c'est l'héritage. Si vous l'enlevez de sa maison, c'est fini pour lui. Il mettra fin à ses jours, ce sera fini pour lui.
Écoutez, Bernadette.
Et moi, en fait, ça, je ne pourrais pas l'accepter.
Ouais. Mais Bernadette, alors, ça fait 35-40 minutes que nous sommes en ligne, ensemble. J'ai bien entendu. Il va falloir que vous vous occupiez. Bon, vous avez l'air d'être sur tous les fronts, là. Donc, je pense que ça vous a fait du bien d'en parler, déjà, hein, de partager ça. Maintenant, il va falloir, dans un premier temps, vous occuper de vous, un petit peu. Et puis de,
oui, mais
de...
comment? Je n'ai pas d'argent. Ah, j'ai rien. J'ai pas d'aide, j'ai personne.
Mais personne ne... Bah, vu que vous
non, tout le monde s'en fout.
Non, mais l'AAH, vous recevez quand même une aide de l'AAH. Donc
ah oui, j'ai l'AAH, mais avec l'AAH, étant donné que l'APL, elle n'a encore pas augmenté parce qu'il faut avoir un gosse, bah, il y a 57 ans, j'ai pas d'enfant, l'AAH, elle n'a encore pas augmenté. Et puis, comme je suis chez un individuel, bah, c'est toujours un peu plus cher que chez un bailleur social. Et le bailleur social, ils ne veulent même pas me prendre non plus parce qu'ils me disent que j'ai pas assez de revenus, qu'il faut un garant. Et comme j'ai personne, ben, j'ai pas de garant. Mmh. Voilà.
Et donc je vois pas trop.
Et puis je vois pas comment je pourrais, parce que j'ai déménagé deux fois. Et donc la fois où j'avais été par le gars de la SPA violée, j'ai déménagé. Non, c'était un autre appartement. On m'a volé la moitié de mes affaires. Et la fois où j'ai déménagé, où il y avait l'ancien gendarme. Eh bien là, toutes les affaires qui sont arrivées dans le nouveau village où j'habite actuellement, le gars qui était avec moi, qui m'a fait déménager, il m'a cassé la moitié du matériel, lui. Voilà. Oui. Alors, si c'est pour recommencer une troisième fois, autant que je reste là, puis j'ai pas les moyens, de toute façon, puis j'en ai plus la force.
Bon, écoutez, en tout cas, il va falloir, si vous avez aidé votre cousine, peut-être qu'il va falloir, Bernadette, que vous fassiez appel à un moment... à toutes ces personnes que vous avez aidées. Alors, bon, je ne parle pas de votre frère, parce que votre frère, il est visiblement, ça n'est pas facile, mais au moins, essayez avec cette cousine que vous avez aidée, hein, avec vos conseils juridiques, de peut-être pouvoir lui demander qu'elle, à son tour, elle vous aide. En tout cas, bon, écoutez, je vous souhaite bon courage, et puis merci de nous avoir appelés, puis oui, je vous souhaite plein de bon courage. Merci beaucoup, Bernadette, bonsoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous accueillons William au 3921. Bonsoir William.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien. J'écoute régulièrement votre émission. C'est très intéressant. Alors j'ai beaucoup de... Enfin, très varié, c'est très intéressant.
Oui, c'est très varié, très varié. Merci en tout cas de votre fidélité. Pardonnez-moi de vous avoir fait patienter, hein, mais Bernadette avait beaucoup de choses à raconter.
Effectivement, oui.
Dites-moi ce qui vous amène, dites-moi. Vous vouliez me parler de la prison, je crois.
Ah bien, disons que c'était hier ou avant-hier qu'il y avait un de vos auditeurs qui avait appelé parce qu'il avait, voilà, il avait fait de la prison. Et puis ce soir, je réagissais aussi par rapport à quelqu'un qui parlait de problèmes d'alcool. Donc j'ai eu les deux, en fait. Hein.
D'accord.
Donc ce qui m'a fait rebondir, c'est le fait des ravages que crée l'alcool. Et effectivement, je peux en témoigner. J'ai grandi dans un foyer avec des parents qui avaient ce problème-là, hein, donc le problème d'alcool.
Oui.
Et j'ai moi-même commencé à boire de l'alcool à l'âge de 15 ans. Enfin, j'ai commencé à 12 ans parce que, bon, voilà, nos parents nous autorisaient à boire un verre de vin de temps en temps. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai découvert vraiment l'ivresse de l'alcool lorsque j'étais en foyer, en internat à Manosque.
D'accord, j'allais vous demander dans quelle région, en fait, si c'était une région qui
Marseille.
Était... D'accord.
Marseille. Je suis marseillais. Alors, j'ai perdu l'accent parce que maintenant je suis installé en Alsace, mais sinon je suis marseillais.
D'accord, vous avez migré en Alsace.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Et en fait, est-ce que c'est plus votre milieu social et le fait d'avoir été placé, hein, vous m'avez dit, vous étiez en foyer ou en internat, je n'ai pas très bien compris.
À l'école hôtelière.
D'accord. Et le fait de commencer si jeune à boire, en fait, c'était dû à quoi?
Ben en fait, comme je dis, l'ivresse, vraiment à l'âge de 15 ans, lorsque j'étais en internat à Perpignan. Je dis souvent Manosque parce qu'après Perpignan, je me suis fait renvoyer pour cause de cambriolage. Donc après, j'ai terminé dans un autre internat à Manosque, où je me suis tenu plus ou moins tranquille. Et en fait, donc j'étais placé en internat parce que j'avais fugué de chez mes parents, ça se passait mal. Donc placé dans cet internat, ben j'ai commencé à voler. Et puis avec le premier argent, ben je me cherchais de l'alcool. Et puis voilà, j'ai commencé à découvrir vraiment l'ivresse de l'alcool. Et après j'ai fait le lien alcool plaisir et puis audace. Et du coup, vu que j'ai eu une vie de délinquance, l'alcool était un peu pour moi un moyen de calculer à juste titre les risques, parce que sans alcool, j'avais beaucoup de mal à voler.
Oui,
lorsque j'avais bu, ben, j'étais capable vraiment de voir les risques, j'allais dire, d'une manière audacieuse. Et puis voilà, donc ce qui fait que l'alcool est vite devenu pour moi un moyen de pouvoir voler. Hein.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc cela m'a conduit à bien des déboires avec une première incarcération à Avignon, à la maison d'arrêt Sainte-Anne, c'est en 88, et puis ensuite les petites baumettes, et puis plus tard en Alsace aussi, donc Colmar et puis Hermingen, centre de détention.
Combien d'années en tout?
Écoutez, la première détention que j'ai fait, à Avignon, c'était 2 mois et demi, donc c'était pas beaucoup, mais bon, quand on est pour une première fois, ça fait beaucoup, j'avais l'habitude d'avoir 18 ans.
Oui.
Après, une autre fois, c'était un mois, j'ai fait un mois aux petites baumettes, et par contre, en Alsace, j'ai fait 15 mois et demi. Voilà.
D'accord.
Donc, d'affilée, pour des faits de vol, voilà, la délinquance, traditionnelle, si on peut dire ça comme ça.
Et depuis, est-ce que déjà vous allez mieux? Vous avez stabilisé votre.
Ah mais aujourd'hui je suis total opposé, je veux dire.
D'accord.
Total opposé aujourd'hui. Je suis président d'une association d'aide gratuite pour les personnes âgées.
D'accord.
Je suis prédicateur au sein d'une église protestante. Voilà, j'ai écrit un livre. Voilà, je suis marié et j'ai complètement arrêté l'alcool en 2008. Voilà. Donc, je me suis marié en 2003. Même quelques mois avant que je me marie, un an et demi, avant que je me marie, j'avais arrêté l'alcool, j'avais eu une ou deux rechutes sans que ma fiancée de l'époque n'en soit au courant. Et finalement, lorsque je me suis marié, bon, je ne buvais plus d'alcool, c'était réglé. Et pendant un an, comme ça, tout était bien. Et un an après le mariage, pour la fête de Nouvel An, il y avait sa tante qui était chez nous, elle avait ramené une bonne bouteille de vin. Et moi, vu que ça faisait, voilà, je me suis dit maintenant, ça fait des années, enfin, voilà, ça fait plus d'un an que je suis complètement réglé avec l'alcool, j'ai plus aucun problème. Je me suis dit, voilà, c'est que j'ai plus de problème. Et puis, je me suis séduit moi-même, vous allez voir comprendre pourquoi. Je me suis dit, la vraie liberté, c'est de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Ben, je vais m'autoriser ce soir à boire un verre de vin. Et effectivement, ce soir-là, je n'ai bu qu'un verre de vin. Et j'étais tout content, tout fier de me dire, voilà, ben, j'ai bu qu'un verre, donc c'est bon, j'ai plus de problème d'alcool. Et donc, étant donné que je me suis dit que j'ai plus de problème d'alcool, une semaine après, je me suis dit, un petit verre de vin en mangeant le midi, ça fait de mal à personne.
Oui.
Et effectivement, pendant plusieurs semaines, je buvais un verre de vin le midi. Puis après, le verre de vin le midi, c'est aussi devenu un verre de vin le soir. Et puis voilà, tout petit comme ça, tout doucement, ça, voilà, je me disais, je gère, voilà, j'ai plus de problème d'alcool. Et puis après, il y avait la bière en rentrant du boulot. Et puis après, c'était 2 bières. Et puis après, c'était 2 verres de vin le midi, 2 verres de vin le soir, et 3 verres, et 4 verres, et 5 verres.
Et c'était reparti.
Et c'est reparti pour pendant 4 ans.
Et c'est d'ailleurs ce que vous évoquez, c'est notre capacité à penser qu'on a le contrôle, en fait.
Ah, mais de toute façon, maintenant, j'ai clairement compris que pour moi, l'alcool, voilà, c'est terminé, quoi. Je sais que, voilà,
Ça rejoint ce que disait Julien tout à l'heure, hein, c'est que l'abstinence, et l'abstinence, c'est vraiment... plus du tout, pas plus une goutte d'alcool.
Ah non.
Et ça n'est pas prôné pour rien, hein, dans ces groupes de parole, parce que ça marche, ça.
chez moi, il y a une particularité que je ne recommande absolument chez aucune personne qui a de l'alcool. Il y a une particularité, c'est que étant à l'église, faisant partie d'une église, on prend ce qu'on appelle la Sainte Cène, le Saint Repas, hein, le pain et le vin. Et donc, effectivement, c'est servi dans des tout petits gobelets, vous savez. Et donc là, une fois par mois, je bois ce petit qui représente le sang du Christ, hein, c'est commémoratif. Ouais, ouais. Et voilà, je suis programmé comme ça, c'est la seule chose que je m'autorise. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas de l'alcool, c'est très très particulier. Hein. Habituellement, dans certaines églises, ils donnent du jus de raisin. Voilà. Et si j'aurais souhaité avoir du jus de raisin, j'aurais demandé du jus de raisin, mais voilà, ça ne me pose absolument aucun problème. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est les alcools plaisir, les chocolats mon chéri avec l'alcool, et trucs comme ça, tout ça, les bières, enfin plus aucun alcool, hein, excepté justement, comme je dis, une fois par mois, lorsqu'on a la Sainte-Cène. Voilà.
Mmh. Et j'aimerais revenir sur la prison, en fait. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur la prison, parce que on avait ce témoignage auquel vous faites référence, de cet homme qui parlait d'alcool beaucoup, mais on sentait une très grande souffrance. Par rapport à son séjour en prison, à ses séjours en prison, hein, mais surtout le dernier. Quel regard vous portez-vous en tant qu'ex-détenu qui a depuis longtemps refait sa vie et qui, voilà, vous menez une vie spirituelle aujourd'hui et vous avez pris du recul par rapport à tout ça. Voilà, il était question de il y avait clairement une accusation de que la prison brise vraiment. Vous en pensez quoi?
Écoutez, moi, j'ai vécu la prison avec une mentalité, ce qu'on appelle la mentalité de l'ancien système. C'est-à-dire, moi, ma première incarcération, c'était en 1988. Et à l'époque, j'étais dans la prison d'Avignon était considérée comme la plus délabrée de France, hein, la plus vétuste, la plus infecte.
Oui.
Et seulement, ce que j'avais remarqué, c'est que quand je suis tombé en prison là-bas, j'étais primaire, ce qu'on appelle un primaire, hein, quand vous tombez en première, c'est en prison. C'était que des gars de l'ancienne école, on appelle ça. C'est-à-dire avec un code d'honneur, le respect, etc. Et la mentalité là-bas, j'en ai jamais vu un qui se plaignait des conditions de vie en prison. Jamais. Mm-hmm. Les gars disaient, t'as joué, t'as perdu, t'assumes. C'était cette mentalité-là. Ce qui fait que moi, la prison, je ne l'ai pas subi comme... D'abord, je ne suis pas passé en victime. J'aurais pu dire oui, c'est parce que j'ai grandi dans un foyer alcoolique dans un quartier nord de Marseille. Non. J'ai choisi parce qu'il y avait des gars de mon quartier, dans le même quartier que moi, qui n'ont jamais volé, qui n'ont pas là. Donc moi, je me suis dit, c'est un choix. Alors c'est vrai que ça ne facilite pas. Un quartier où il y a des vols, des départs alcooliques, ça ne facilite pas. Mais c'est trop facile de se placer en victime. Vous voyez, on est un peu trop dans la culture de la victime aujourd'hui. Mm-hmm. Alors c'est vrai que la prison n'en sort pas indemne. C'est vrai que voilà. Et tout dépend le caractère que vous avez, la mentalité. Voilà, il n'y a pas de règles. Je comprends tout à fait que ce monsieur dit qu'il a été brisé. Mais moi, justement, figurez-vous d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de retourner en prison, cette fois-ci en tant que... j'accompagnais l'aumônier, donc cette fois-ci en tant que prédicateur, mais accompagnant de l'aumônier. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les détenus. Et effectivement, il y a vraiment cette culture de la victimisation où quand je les laissais parler, ils me disaient « Ouais, alors je vais être un peu grossier, mais ils disaient « Ouais, nique la police, on a dit, l'État, il ne fait rien pour nous. » Je dis « Attendez les gars, stop, vous faites quoi, vous, pour vous ?» Qu'est-ce que vous faites pour vous? Vous êtes conditionné, vous pensez comme au quartier où on vous a appris à penser, mais qu'est-ce que vous pensez? Et par exemple, quand il dit, ouais, la police, ceci, la police, le policier, il est prêt à risquer sa vie pour sauver ta mère qui se fait agresser à un guichet automatique. Vous voyez, j'essaie de les sensibiliser de ce côté-là. Donc le côté victimisation, ça n'a pas été mon truc. La prison, de toute façon, c'est clair, c'est pas facile. Même la meilleure des prisons, et c'est vrai que les conditions de vie en prison en France, franchement, faut relativiser. C'est vrai, moi, j'étais à Avignon, j'étais au Petit Baumettes. Le Petit Baumettes, je veux dire, c'est carnage. Là-bas, les gars, ils se prennent à coups de fourchette pour un yaourt. Hein.
Mais...
J'étais à Colmar, j'étais à Hermingen, j'ai vu différentes prisons. Une cage dorée reste une cage. Par contre, voilà, moi, dans ma tête, c'était j'ai joué, j'ai perdu, voilà, je dois assumer, quoi. Mmh. Et je sais aussi de relativiser par rapport aux prisons qu'il y a dans les pays d'Orient, dans les pays de l'Est, etc.
Oui, et je pense que vous faites allusion à une mentalité. Encore aujourd'hui, on reçoit, encore aujourd'hui, il y a des détenus qui ont la même mentalité que vous, qui ont joué et qui ont perdu et qui vivent la prison comme.
Mais ça se perd, parce que ça, c'est l'ancienne école, ça se perd.
Oui, ça se perd.
Par exemple, nous, on avait la mentalité de... Par exemple, on ne se sert pas un café sans proposer un autre. De ma mentalité à moi, de ce que j'ai connu, hein, on ne va pas aux toilettes sans se laver les mains. Sinon, le gars, il prend son pactage, on l'appelle le surveillant. Surveillance, lui, on ne le veut plus dans la cellule. Vous voyez, il y avait vraiment tout ce côté-là de partage. Mais ça se perd, ça se perd. Ce qui commence à se passer maintenant dans les prisons, c'est ce qu'on voit un peu aux États-Unis, le phénomène de gang. cet état d'esprit de code d'honneur, d'entraide, etc., ça se perd de plus en plus, c'est dommage. Il y a encore quelques anciens qui ils sont plus très nombreux, qui essayent encore de véhiculer cette mentalité, mais ça se perd, honnêtement, ça se perd.
Ouais,
il y a vraiment ce côté de victimisation.
Excessif.
Voilà, qui est excessif. Mm-hmm. À un moment donné, faut arrêter de se placer en victime. Quoi. Moi, je peux en parler, je veux dire, hein, je faisais des escroqueries, des vols, les 400 coups, c'est pas bien à un moment donné. De toute façon, la prison, il le faut pour protéger la société.
C'était ce pourquoi je vous posais cette question, parce que dans le témoignage de ce monsieur, il y avait, les juges nous mettent en prison, et lorsque je lui disais, c'est aussi une règle, une société avec ses règles, ses limites, la prison, elle n'existe pas par hasard. Évidemment, ça n'est pas un endroit agréable, c'est certain.
Exact. Et de toute façon, il faut. Les prisons, on vous place en prison, c'est aussi pour protéger les citoyens. Il y a un rôle de vous devez assumer vos actes, vous êtes puni quelque part, mais c'est aussi pour protéger les citoyens, quoi, je veux dire. Alors après, c'est clair qu'il faut le dire, j'ai vu des injustices. Franchement, j'ai vu des gars qui avaient commis ce qu'on appelle en prison, on appelle ça vulgairement les pointeurs, pour l'histoire de viol. Il y en a qui prenaient 1 an, 2 ans. Et d'autres pour une histoire de braquage ou de cambriolage, ils prenaient 5 ans. J'ai vu, moi, des clandestins, juste parce qu'ils étaient sur le territoire français, sans papier. Ben, ils prenaient 6 mois.
Oui, oui.
Donc, il y a des trucs comme ça. Ou des personnes, effectivement, il faut le dire, il y a des personnes qui n'ont rien à faire en prison. Vous avez des capsis. Vous avez des capsis qui n'ont absolument rien à faire en prison. Vous avez des personnes qui ont été en prison ils ont causé un accident sous l'emprise de l'alcool. C'est vrai que selon la loi, il y a des personnes comme ça. Vous voyez, la justice, de toute façon, elle ne peut pas être parfaite, une justice humaine. La justice humaine, elle ne peut pas être parfaite. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent et il y a toujours à redire, ça c'est clair.
Mm-hmm. Mais il y a quand même ce phénomène de victimisation plus en plus. Parce que, bien évidemment, il y a le phénomène des quartiers qui se sentent abandonnés aussi par la République, ce qui n'est pas faux pour certains quartiers aussi, où faire des bêtises, c'est un peu la seule solution qu'on a si on veut survivre. Donc, lorsqu'on joue, on peut perdre.
Et vous savez, moi, ce que je dis pour terminer, parce que je sais qu'on va bientôt avoir des informations, je suis marseillais, alors du coup, je reparle vite de nouveau. C'est-à-dire, comme je sais qu'on a très peu de temps, alors j'essaie d'en dire un maximum.
Reste 3 minutes.
Ce que j'ai dit aux détenus que j'ai rencontrés plusieurs fois, j'ai dit, écoutez les gars, franchement, quand on voit l'intelligence que vous utilisez, que vous mettez au point, quand vous voyez les stratégies que vous mettez au point tout votre commerce, votre trafic, etc., je dis, franchement, utilisez cette intelligence pour créer votre entreprise. Ouais.
Mais il y en a beaucoup qui le font.
Mais de plus en plus.
Je pense plein de jeunes que j'ai vus faire des bêtises et même faire un séjour en prison du côté de chez moi là-bas à Évreux et puis qui autour de des 22 ans, 23 ans, se calment, rencontrent une petite et puis font un enfant et puis se calment et vous les retrouvez 2-3 années plus tard, ils ont monté leur petite entreprise, bâtiment ou mécanique ou même parfois des business qui leur rapportent bien plus que ce qu'ils faisaient quand ils faisaient des bêtises.
Et surtout, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
En plus, ce qui est un véritable luxe. Vous devez en savoir quelque chose.
Ah oui, tout à fait. Et une véritable fierté de se dire, la voiture que j'ai ou le mobilier que j'ai à la maison, les vacances que j'ai payées à ma femme, c'est que l'argent est transpiré et en respectant les lois. Quoi, je veux dire, effectivement, c'est... Enfin, moi, je sais que je tiens... Et puis, vous savez, on dit souvent, oui, la prison, on en sort pire, etc. Alors, c'est vrai pour certains, mais on oublie de dire qu'il y en a chez qui ça a servi de leçon, je veux dire. Ça, on oublie d'en parler, de cela.
Oui, oui. Ceux-là font moins de bruit. Ceux-là font moins de bruit.
Exact. Oui. Et il y en a qui s'en sortent et qui ça leur a servi de leçon. Moi, j'en ai rencontré, j'en vois d'ailleurs, j'en croise dans ma ville que j'allais visiter en prison. Je veux dire, les voir maintenant, il y en a qui, ils cherchent du boulot, je les encourage, je les suis, j'en ai aidé quelques-uns. Mais il faut en parler de cela aussi. Mais vraiment, il faut vraiment arrêter, si je peux laisser un message là, parce que je sais qu'il y a aussi des détenus qui écoutent, quoi. Faut arrêter de se placer toujours en victime. Faut assumer et se dire, maintenant, quand je sors, je démarre sur de nouvelles bases et puis... Et puis, il y a tellement de choses intéressantes à faire.
Oui, c'est au-delà de dormir sur ses deux oreilles. Vous avez raison, il y a tellement de choses à faire.
Intéressantes.
Oui. vous en savez quelque chose. Moi, je suis intéressé quand même pour que vous me rappeliez, hein, William. On va se caler un rendez-vous quand même hors antenne avec Natacha pour que vous me reparliez un petit peu de votre vie aujourd'hui, de l'Alsace. Ça m'intéresse de savoir comment, aujourd'hui, de Marseille à l'Alsace, comment vous êtes arrivé à vous occuper d'être dans l'église protestante et puis de vous occuper de cette association. On va se reparler parce que j'ai bien envie de reparler avec vous, moi, si vous en avez envie, bien évidemment.
Ah oui, tout à fait.
Ben merci beaucoup en tout cas de m'avoir appelé. On se reparle. Bon, reparlons-nous la semaine prochaine, d'accord ?
Avec grand plaisir.
Bonsoir. C'est la fin de cette libre antenne. Il est 1h02 du matin. Je vous retrouverai demain soir avec un grand plaisir à partir de 22h30. À demain. Bonsoir.